Résonance, par les membres de l'Institut d'études Lévinassiennes.
Il faut percer, il faut enfin passer au positif. Il faut enfin entendre ce que nos maîtres nous apprennent. Il y a deux figures de l'universel.
Bonjour. L'émission Résonance, anciennement L'Autre Rive, marque la reprise des émissions radiophoniques de l'Institut d'études lévinassiennes. Bi-hebdomadaire, diffusée tous les deux mardis de chaque mois, l'émission se propose d'être la vitrine animée des activités et des productions de l'Institut. Quelles sont-elles ? D'abord des séminaires. Chaque année, l'Institut d'études lévinassiennes propose sur un thème donné des leçons magistrales, dispensées par des savants réputés, historiens des idées ou des lettres, par des intellectuels de la vieille et de la jeune garde, et par des écrivains. Le programme de ces séminaires est consultable en ligne à l'adresse www.levinas.fr. Le site de l'Institut d'études lévinassiennes ne reflète pas seulement ses activités d'enseignement. Il recèle encore un outil indispensable à la recherche, une base de données composée des principaux textes sous format numérique d'Emmanuel Lévinas et de Benny Lévy qui fut, je le rappelle, instigateur et fondateur de l'Institut. Outre cette base de données textuelle, on peut consulter, entendre et voir les archives de l'Institut, faites des séminaires, des émissions et des grands débats. En plus de ces activités, l'Institut édite et publie une revue annuelle de rang international, les Cahiers d'études lévinassiennes. Le numéro 10, consacré au thème de l'université, vient de paraître. Je vous invite vivement non seulement à l'acheter, bien sûr, mais encore à le lire. Il n'est pas vrai que rien d'exigeant ni de rare ne se fait plus. Il n'est pas vrai que la médiocrité prévaut partout. Beaucoup s'en plaignent, mais ne font rien. Que faire ? À tout le moins, soutenir, sinon s'y joindre, l'effort des membres de l'Institut d'études lévinassiennes. Soutenir par sa présence et par sa participation au séminaire. Soutenir par ses dons. Soutenir enfin par tous les moyens dont on est capable. L'émission d'aujourd'hui qui vous est présentée par René Lévy et Pascal Baquet est pour titre « La question nationale et les Juifs ». Comme toutes celles qui suivront, elle entre dans le cadre des activités de l'Institut, dont le thème est cette année celui des nations. On pense immédiatement au débat sur l'identité nationale, tant ils ont défrayé la chronique. Ce ne fut pas à cause de la nouveauté du sujet, mais la faute des chroniqueurs qui l'ont couvert et qui semblaient des novices. Feignant de croire à sa nouveauté, ils finirent par y croire. La chose est banale. Quiconque accroche à l'actualité croit tenir la nouveauté. Hélas, l'actualité est rarement autre chose qu'un hoquet de l'histoire.
On s'étonnera peut-être que nous intitulions l'émission « La question nationale et les Juifs » et pas plutôt « La question juive et les nations », celle-ci n'ayant pas cessé d'agiter les esprits européens jusqu'à sa solution finale en 1941, à savoir l'anéantissement des Juifs. Nous tâcherons de montrer qu'il s'est agi moins en vérité de questions juives que de questions nationales. Sitôt posée, la question juive impliquait l'existence de nations. S'il existait des nations, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, Qu'étaient les Juifs vivant en elle, mais persistant dans leur être juif? La question juive impliquait la réalité des nations. Si les nations étaient réelles, si la France était réelle, si l'Angleterre était réelle, si l'Allemagne était réelle, que signifiait la persistance juive en leur sein? Oui, si tôt posée, la question juive impliquait le fait national. Puisqu'il fallait admettre comme un fait l'existence des nations, il fallut à contrario nier le fait juif, mettre en question l'existence juive, puis la soumettre à la question jusqu'à vouloir l'anéantir. Nous ne croyons pas que la question juive se soit jamais posée, parce que le fait juif a de longtemps précédé l'existence de nations et qu'il persiste encore par-delà même la plus grande et plus cruelle entreprise de destruction massive d'hommes, de femmes et d'enfants. Telle est notre hypothèse. Ce n'est pas en vérité la question juive qui se pose, mais la question nationale. Ce n'est pas le fait national qui prévaut sur le fait juif, mais le fait juif sur le fait national. Ce n'est pas l'existence nationale qui prévaut sur l'existence juive, mais l'existence juive sur l'existence nationale. Peut-être n'existe-t-il pas de nation véritable. Peut-être est-ce à cause qu'elles doutent de leur réalité que les nations se montrent si féroces et si voraces. L'histoire commence en Alsace et, concomitamment, en Prusse, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'Aufklärung fleurit en Allemagne, comme les Lumières en France, à l'instigation de Lessing et de Mendelssohn. La situation des Juifs au sein des États chrétiens était un enjeu principal. En Alsace, tombée dans l'escarcelle de la France après le traité de Westphalie, les Juifs ne laissaient pas de subir des vexations nombreuses. Syndic de la nation juive d'Alsace depuis 1765, Cerbère, autrement nommé Hirtz Medelsheim, qui obtint les lettres de naturalité en 1775 grâce à l'intervention de son protecteur, le ministre Choiseul, rédigea vers la fin des années 1770 un mémoire relatif à la situation des Juifs d'Alsace. Il espérait ainsi dépeindre au roi Louis XVI les conditions pénibles dans lesquelles se trouvaient ses coreligionnaires. Au même moment, à Berlin, Christian Wilhelm von Dom, haut fonctionnaire et conseiller de Frédéric II de Prusse, entreprit d'écrire, à la demande de Mendelssohn, dont il fréquentait le cercle, un ouvrage sur les Juifs qu'il intitula, pardonnez ma prononciation, Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. C'était en somme une tentative de fondation rationnelle de l'émancipation des Juifs. Cerbère, apprenant l'entreprise de Dom, finança la publication de l'ouvrage en 1781 et le fit traduire presque aussitôt en français par Bernoulli. Le titre était « Sur l'amélioration civique des Juifs ». L'ouvrage, même s'il fut interdit et de nombreux exemplaires brûlés aux portes de Paris, fit fortement impression. Mirabeau s'en fit l'écho dans son livre sur Moses Mendelssohn. Partout, on parlait des Juifs, et les gazettes commentaient les opinions diverses, tant et si bien qu'en 1787, l'Académie royale des sciences et des arts de Metz mettait au concours ce sujet « Est-il des moyens de rendre plus utiles et plus heureux les Juifs en France ?» Concours dont on sait qu'il fut remporté par l'abbé Grégoire, avec deux autres candidats, grâce à son célèbre essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, qu'il publia en 1781. Le problème juif était expressément posé. Certes, la formule fameuse et néfaste de question juive n'était pas encore forgée, puisqu'il fallut attendre 1843 et la publication de l'ouvrage de Bauer intitulé « Die Judenfrage » pour que la formule fût consacrée. Pourtant, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la réalité du problème juif était patente. On se représentait de plus en plus vivement la nécessité d'accorder aux Juifs les droits civiques dont ils étaient privés. On ne manquera pas de s'étonner. Pourquoi la question juive ne s'est pas posée sous l'Ancien Régime, mais seulement à la veille de la Révolution? Tout simplement parce que les Juifs étaient des étrangers, parce que les Juifs formaient une nation à part. Depuis que le Juif Paul de Tarse, ayant déclaré qu'il n'y avait plus ni Juif ni Grec, fit du christianisme la religion de l'homme, on concevait aisément en Occident chrétien qu'un homme pût être à la fois français et chrétien, allemand et chrétien, anglais et chrétien, mais on ne concevait pas que les Juifs fussent juifs et français, juifs et allemands, juifs et anglais. Le nom du juif était en général celui d'une religion et d'une nation. On dira plus tard que le nom de juif en général était celui d'une religion nationale. Pourtant, un juif, un individu juif, pouvait devenir français par privilège, car français signifiait sujet du roi de France. S'il avait rendu des services notables, il pouvait devenir français par l'obtention de lettres de naturalité, ce qui fut le cas de Cerbère. Appartenant à une nation sans sol ni roi, un juif pouvait bien devenir, à titre individuel, le sujet du roi d'une autre nation sur le sol de laquelle il vivait. Il en était tout autrement sous la Révolution française. Sous elle, même du vivant de Louis XVI, français ne se disait plus d'un sujet du roi de France, mais d'un citoyen de la République. Cette dignité civique, la République la conférait à ses membres simplement parce qu'ils étaient nés hommes. La République consacrait de droit l'humanité politique. C'est alors, quand le français de l'Ancien Régime devint citoyen parce qu'il était né homme, que la question juive éclata. C'était en 1789, en décembre 1789, quand, à la toute jeune Assemblée nationale, fut mise à l'ordre du jour la question de l'octroi des droits civiques aux juifs. On trouvera les procès-verbaux de ces séances aux archives nationales. Nous en citerons des extraits. D'après l'ouvrage d'Alphen, recueil des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d'État, arrêtés et règlements concernant les Israélites depuis la Révolution de 1789, Paris, 1851. Pour bien saisir l'enjeu de ces séances, il faut revenir quelques mois en arrière, en janvier 1789, date à laquelle parut l'un des ouvrages fondamentaux de la doctrine révolutionnaire « Qu'est-ce que le tiers-État ?» d'Emmanuel Joseph Sieyès. C'est lui, Sieyès, qui donna sa forme définitive à la nation française par une opération remarquable. Expliquons-nous. Depuis toujours, depuis leur passage à l'État social, les hommes se sont enquis d'unité solide et durable. Dans l'Antiquité grecque, l'unité sociale était assurée par l'unité géographique de la cité et par l'appartenance à celle-ci. Mais en France, sous le système féodal, les habitants, dispersés sur un grand territoire, n'étaient plus unis par leur appartenance à la ville, mais par leur allégeance au roi, par un système de double allégeance, l'allégeance des vassaux à leur suzerain, l'hommage lige, et celle des serfs à leur seigneur, le servage. Quant aux étrangers, dont les mérites étaient notoires, ils pouvaient à leur tour devenir sujets du roi, on l'a dit, par privilège, par l'octroi de lettres de naturalité. La noblesse est issue du système féodal. Au XVIIIe siècle, elle jouissait de privilèges héréditaires, en sorte qu'elle formait un ordre dans l'État, l'ordre privilégié. Sieyès, dans son opuscule, dénonça la noblesse comme étant nuisible à la République, comme un ordre indu. Que d'écho vous allez entendre avec notre société dite démocratique.
Il suffit d'avoir fait sentir que la prétendue utilité d'un ordre privilégié pour le service public n'est qu'une chimère, que sans lui, tout ce qu'il y a de pénible dans ce service est acquitté par le tiers, que sans lui, les places supérieures seraient infiniment mieux remplies, qu'elles devraient être naturellement le lot et la récompense des talents et des services reconnus, et que si les privilégiés sont parvenus à usurper tous les postes lucratifs et honorifiques, c'est tout à la fois une iniquité odieuse pour la généralité des citoyens et une trahison pour la chose publique. Qui donc oserait dire que le tiers-État n'a pas en lui tout ce qu'il faut pour former une nation complète? Il est l'homme fort et robuste dont un bras est encore enchaîné. Si l'on ôtait l'ordre privilégié, la nation ne serait pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus. Ainsi, qu'est-ce que le tiers ? Tout, mais un tout entravé et opprimé. Que serait-il sans l'ordre privilégié ? Tout, mais un tout libre et florissant. Rien ne peut aller sans lui. Tout irait infiniment mieux sans les autres. Il ne suffit pas d'avoir montré que les privilégiés, loin d'être utiles à la nation, ne peuvent que l'affaiblir et lui nuire. Il faut encore prouver que l'ordre noble n'entre point dans l'organisation sociale, qu'il peut bien être une charge pour la nation, mais qu'il n'en saurait faire une partie.
Sieyès dénonça la noblesse comme un ordre hors du commun, comme un ordre indu, car point d'ordre véritable hors du commun. Point d'ordre véritable qui ne soit soumis à la loi commune. Cet ordre soumis à la loi commune, c'était le tiers-État.
Il faut entendre, par le tiers-État, l'ensemble des citoyens qui appartiennent à l'ordre commun.
Or, la noblesse a joui de privilèges qui la mettaient hors de l'ordre commun.
N'est-il pas trop certain que l'ordre noble a des privilèges, des dispenses, qu'il ose appeler ses droits, séparés des droits du grand corps des citoyens? Il sort par là de l'ordre commun, de la loi commune.
Oui, la noblesse a joui le privilège. Or,
tout ce qui est privilégié par la loi, de quelque manière qu'il le soit, sort de l'ordre commun, fait exception à la loi commune, et par conséquent, n'appartient point au tiers-État.
Qu'à cela ne tienne, dirons-nous. La noblesse tient à part et s'en trouve bien. Elle croit à son excellence et cultive sa distinction. Faut-il qu'on veuille l'égaler à la roture et au croquant? Veut-on que l'élite se confonde avec les bougeux et les ratés des villes et des campagnes? Sieyès s'indigne. Outre que pour lui, la noblesse était nuisible, il fallait encore montrer que son existence est aberrante. La noblesse n'avait pas place dans une société d'égaux. Elle ne formait pas un ordre véritable, mais une caste parasitaire.
C'est le vrai mot. Il désigne une classe d'hommes qui, sans fonction, comme sans utilité, et par cela seul qu'ils existent, jouissent de privilèges attachés à leur personne. Sous ce point de vue, qui est le vrai, il n'y a qu'une caste privilégiaire, celle de la noblesse. C'est véritablement un peuple à part, mais un faux peuple, qui ne pouvant, à défaut d'organes utiles, exister par lui-même, s'attache à une nation réelle comme ces tumeurs végétales qui ne peuvent vivre que de la sève des plantes qu'elle fatigue et dessèche.
La noblesse, l'élite nobiliaire, croyant faire exception, n'a fait que marquer son exclusion de la nation. Car, demande Sieyès, qu'est-ce qu'une nation ?
Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature.
Sieyès peut conclure.
Le tiers embrasse donc tout ce qui appartient à la nation. Et tout ce qui n'est pas le tiers ne peut pas se regarder comme étant de la nation. Qu'est-ce que le tiers ? Tout.
Si le tiers est tout, s'il est la nation, alors les privilèges dont jouissent la noblesse la mettent à part et font d'elle un peuple à part, un peuple séparé.
Ainsi, ces droits civils en font déjà un peuple à part dans la grande nation. C'est véritablement imperium in imperio.
Sieyès, on le voit, opéra un déplacement fondamental. Ce n'était plus dans la personne du roi que s'incarnait l'unité de la nation, mais dans la loi commune, égale pour tous. La nation, fondée sur la communauté de la loi, naissait à la modernité. Quelques mois plus tard, en décembre 1789, quand il s'agit de discuter de l'octroi des droits civiques aux Juifs, à les sourdes, sous la tribune de l'Assemblée nationale, le refoulé de la noblesse. Oui, les Juifs en furent le substitut symbolique, si ce n'était en vérité l'inverse depuis toujours. Qu'on se rappelle, pour s'en convaincre, en quels termes Sieyès critiquait la noblesse. Nation dans la nation, peuple séparé. Comme les nobles avec leurs privilèges, les juifs observaient des lois qui les distinguaient des autres hommes. Comme les nobles, les juifs faisaient exception à la loi commune. Fallait-il dès lors traiter les lois juives comme Sieyès avait traité les privilèges nobiliaires et demander leur abolition ? Ou bien fallait-il exclure les juifs de la nation à laquelle ils pensaient faire exception ? Le 21 décembre 1789, sous la présidence de Fréteau, le député libéral Clermont-Tonnerre proposa la formule de décret suivant.
L'Assemblée nationale décrète qu'aucun citoyen actif réunissant les conditions d'éligibilité ne pourra être écarté du tableau des éligibles ni exclu d'aucun emploi public à raison de la profession qu'il exerce ou du culte qu'il professe.
On discuta de l'état des Juifs. Rebelle, député du parti des Noirs, c'est-à-dire des conservateurs, déclara
« Je pense sur les Juifs, comme les Juifs eux-mêmes. Ils ne se croient pas des citoyens. C'est dans cette opinion que j'admets l'amendement de M. de Clermont-Tonnerre, parce qu'il les exclut. » En se servant de cette expression « citoyen actif ».
Rebelle était habile. Pourquoi discuter de l'octroi des droits civiques aux Juifs, puisqu'ils ne se croyaient pas citoyens ? Ne fallait-il pas à tout le moins que les Juifs voulussent en être ? Les échos de Rebelle s'entendent encore aujourd'hui. Dans la bouche de ceux qui disent et proclament que les immigrés ne veulent pas être des Français. Et nombreux sont encore aujourd'hui parmi les Juifs qui lui donnent raison parce qu'ils ne se croient pas citoyens. D'où venait donc aux députés rebelles l'idée que les Juifs ne se croient pas des citoyens? De leur attachement à leur culte. Le surlendemain, le 23 décembre 1789, sous la présidence de Desmeuniers, Clermont-Tonnerre crut répliquer en rebelle.
Je vais m'occuper maintenant du culte. Vous avez déjà prononcé sur cet objet en disant dans la Déclaration des droits que nul ne serait inquiété, même pour ses opinions religieuses. N'est-ce pas inquiéter essentiellement des citoyens que de vouloir les priver du droit le plus cher à cause de leurs opinions? La loi ne peut atteindre le culte d'un homme, elle ne peut rien sur son âme, elle ne peut que sur ses actions, et elle doit les protéger quand elles ne nuisent point à la société. Dieu a voulu que nous nous accordions sur la morale, et il nous a permis de faire des lois morales, mais il n'a réservé qu'à lui seul les lois dogmatiques et l'empire des consciences. Laissez donc les consciences libres, que le sentiment ou la pensée dirigée de telle ou telle manière vers le ciel ne soient pas des crimes que punisse la société par la perte des droits sociaux. Ou bien faites une religion nationale, armez-la d'un glaive, et déchirez votre déclaration des droits. Voilà la justice, voilà la raison. Consultez encore la politique. Tout culte n'a qu'une preuve à faire, celle de la morale. S'il en est un qui ordonne le vol et l'incendie, il faut non seulement refuser l'éligibilité à ceux qui le professent, mais encore les proscrire. Cette observation ne peut s'appliquer aux Juifs. Les reproches qu'on leur fait sont nombreux. Les plus graves sont injustes, les autres ne sont que des délits. L'usure, dit-on, leur est permise. Cette assertion n'est fondée que sur une interprétation fausse d'un principe de bienfaisance et de fraternité qui leur défend de prêter à intérêt entre eux. Des hommes qui ne possèdent que de l'argent ne peuvent vivre qu'en faisant valoir cet argent. Et vous les avez toujours empêchés de posséder autre chose. Ce peuple est insatiable, dit-on. Cette insatiabilité n'est pas certaine. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation. Il faut tout leur accorder comme individu. Il faut qu'ils soient citoyens. On prétend qu'ils ne veulent pas l'être. Qu'ils le disent ou qu'on les bannisse. Il ne peut y avoir une nation dans une nation.
Par ce long discours, et spécialement par ces derniers mots, Clermont-Tonnerre reproduisait à l'encontre des Juifs et contre les lois juives l'argument de Sieyès contre les nobles et les privilèges dont ils jouissaient. Comme Sieyès à l'égard des nobles, Clermont-Tonnerre envisageait la possibilité d'expulsion des Juifs réfractaires qui opposeraient à la loi commune la prévalence des lois juives. Oui, c'étaient les exceptions qu'il fallait abolir, sous peine d'entraîner l'exclusion des Juifs de la nation. Tout refuser aux Juifs comme nation, parce qu'il ne pouvait y avoir de nation dans la nation, tout leur accorder comme individu, parce qu'ils étaient des hommes. Pour le libéral qu'il était, il était nécessaire que les Juifs fussent citoyens. Nécessaire aussi qu'ils voulussent être tels.
Les Juifs sont présumés citoyens tant qu'on n'aura pas prouvé qu'ils ne le sont pas, tant qu'ils n'auront pas refusé de l'être. Dans leur requête, ils demandent à être considérés comme tels. La loi doit reconnaître un titre que le préjugé seul refuse.
Son discours n'emporta pas tous les suffrages. Un autre député conservateur, Maury, revint à la charge.
Passons à un objet plus digne de cette assemblée. J'observe d'abord que le mot juif n'est pas le nom d'une secte, mais d'une nation qui a des lois, qui les a toujours suivies, et qui veut encore les suivre. Appeler les Juifs des citoyens, ce serait comme si l'on disait que, sans lettre de naturalisation, et sans cesser d'être anglais et danois, les Anglais et les Danois pourraient devenir français. Depuis le règne de Charles le Chauve,
empoisonné par Sédécias, son médecin, et qui donna l'état civil aux Juifs, ils ont été chassés et rappelés 7 fois. Monsieur de Voltaire dit, dans les questions sur l'encyclopédie, que l'avarice les a chassés, et qu'ils ont été rappelés par la bêtise et par l'avarice. Comptons pour quelque chose la conduite de nos pères, et que Fontenelle n'ait pas eu raison de dire « les fautes des pères sont perdues pour les fils ». Les Juifs ont traversé 17 siècles sans se mêler aux autres nations. Ils n'ont jamais fait que le commerce de l'argent. Ils ont été le fléau des provinces agricoles. Aucun d'eux n'a su ennoblir encore ses mains en dirigeant le soc et la charrue. La loi qu'ils suivent ne leur laisse pas le temps de se livrer à l'agriculture. Outre le sabbat, ils ont, par année, 56 fêtes de plus que les chrétiens. En Pologne, ils possèdent une grande province. Eh bien, les sueurs des esclaves chrétiens arrosent les sillons où germe l'opulence des Juifs, qui, pendant que leurs champs sont ainsi cultivés, pèsent des ducats et calculent ce qu'ils peuvent ôter des monnaies sans s'exposer aux peines portées par la loi. Ils n'étaient laboureurs ni sous le règne de David, ni sous celui de Salomon. On leur reprochait alors leur paresse. Uniquement occupés du commerce, ils étaient ce que sont aujourd'hui les corsaires barbaresques. En ferez-vous des soldats? Le célibat est en horreur chez eux, ils se marient très jeunes. Quand même, ils auraient le patriotisme et la valeur qui les appellerait sous nos drapeaux, on n'en tirerait pas un grand avantage. Je ne connais dans le monde aucun général qui voulût commander une armée de Juifs le jour du sabbat. Ils n'ont jamais donné une bataille ce jour-là, et leurs ennemis le respectaient comme eux. En ferez-vous des artisans? Leurs fêtes multipliées et leurs jours du sabbat seraient des obstacles insurmontables. Ils possèdent en Alsace 12 millions d'hypothèques sur les terres. Dans un mois, ils seraient propriétaires de la moitié de cette province. Dans 10 ans, ils l'auraient entièrement conquise, et elle ne serait plus qu'une colonie juive. Les peuples ont pour les Juifs une haine que cet agrandissement ne manquerait pas de faire éclater. Pour leur salut, il ne doit pas y avoir lieu à délibérer. Ils ne doivent pas être persécutés. Ils sont hommes et ils sont nos frères. Et anathème à quiconque parlerait d'intolérance. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses. Vous l'avez reconnu. Et dès lors, vous avez assuré aux Juifs la protection la plus étendue, qu'il soit donc protégé comme individu et non comme Français, puisqu'ils ne peuvent être citoyens. Il ne faut pas conclure de ce que j'ai dit sur les Juifs, que je confonds les protestants avec eux. Les protestants ont la même religion et les mêmes lois que nous, mais ils n'ont pas le même culte. Cependant, comme ils jouissent des mêmes droits, je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la partie qui les concerne dans la mention proposée.
Comme rebelle, Maury était habile. À Clermont-Tonnerre, qui croyait tenir que le culte juif ne s'oppose pas à la loi, ni ne nuit à la société parce que Dieu a voulu que nous nous accordions sur la morale. À Clermont-Tonnerre, qui semblait distinguer au sein du judaïsme entre les lois relevant de la pratique, toute morale est conforme à la loi commune, et les lois dogmatiques, relevant d'un culte du cœur et ne regardant que la conscience, Maury s'évertua à montrer combien les lois dogmatiques, notamment le Shabbat, empêchaient les Juifs de s'intégrer dans la société nouvelle. Combien les lois dogmatiques, à l'instar des privilèges, faisaient des Juifs une nation à part. Dans son Histoire moderne des Juifs, Dubnov n'a pas tort quand il conclut « Cela signifiait que l'assimilation était une condition de la citoyenneté active. » Certes, le terme d'assimilation appliqué à la période révolutionnaire est anachronique, mais l'idée ne l'est pas. Non seulement il fallait nier que les Juifs forment une nation, mais il fallait plus encore que les Juifs eux-mêmes le nient. C'était impératif pour le Juif, afin qu'il devînt citoyen, et pour la France, afin qu'elle devînt une nation d'égaux. Car si la France tolérait l'existence en son cœur d'une nation juive, c'est qu'elle n'était pas une nation d'hommes égaux incarnés dans un peuple. Elle ne serait en somme que le doux nom d'une monarchie qui s'ignore. Par la voix de Clermont-Tonnerre, le judaïsme était appelé à devenir, comme le catholicisme et le protestantisme, une famille de la religion universelle, une simple confession religieuse, une espèce du genre. Les droits civiques furent octroyés à tous les juifs, ashkénazes, séfarades et portugais, le 28 septembre 1791, 2 ans plus tard. Malgré l'enthousiasme des juifs de France, la question n'était pas réglée. L'ambiguïté généreuse dont fit preuve Clermont-Tonnerre, dénoncée par l'abbé Maury, empoisonna tout le XIXe siècle et, pouvons-nous ajouter sans trop de risques, nous empoisonne encore aujourd'hui. Le premier, Napoléon, douta de la bonne foi des juifs, qui croyaient pouvoir, tout en se plaçant sous l'autorité de la loi commune, conserver par devers eux l'usage de pratiques exclusives. Il exigea d'eux, sous la menace de la privation des droits civiques, ce que n'avait pas fait Clermont-Tonnerre, qu'ils renoncent à tous les privilèges, notamment en matière judiciaire, dont ils jouissaient jusque-là. Le grand Sanhédrin, qu'il convoqua, dut signer l'acte de renonciation. On peut lire à cet égard dans le préambule des décisions doctrinales publiées avec le texte hébreu aux éditions Verdier en 2007, les déclarations suivantes.
Réunis aujourd'hui, sous sa puissante protection dans sa bonne ville de Paris, au nombre de 71 docteurs de la loi et notables d'Israël, nous nous constituons en grand Sanhédrin, afin de trouver en nous le moyen et la force de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois et qui servent de règles et d'exemples à tous les Israélites. Ces ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons et ne nous séparent point de la société des hommes. En conséquence, déclarons que la loi divine, ce précieux héritage de nos ancêtres, contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques. Que les dispositions religieuses sont par leur nature absolues et indépendantes des circonstances et des temps. Qu'il n'en est pas de même des dispositions politiques, c'est-à-dire de celles qui constituent le gouvernement et qui étaient destinées à régir le peuple d'Israël dans la Palestine lorsqu'il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats. Que ces dispositions politiques ne sauraient être applicables depuis qu'ils ne forment plus un corps de nation.
Cette renonciation expresse sembla satisfaire Napoléon, qui déclara « Aujourd'hui, les Juifs ne forment plus une nation et ils ont l'avantage d'être incorporés dans la grande nation. » Mais l'empereur se trompait. Avec lui, tous les juifs conservateurs qui croyaient pouvoir préserver les lois spécifiques du judaïsme, comme par exemple la cachroute et le shabbat, tout en célébrant haut et fort, à la manière du rabbin Lazar Vogue, l'année 1791 comme Shenat HaGeoula, année de la délivrance. Tous se trompèrent. La pratique juive, spécialement le shabbat et la cacheroute, mettait les juifs à part. Les lois juives, comme des privilèges sans les avantages, les isolaient et les séparaient des autres hommes. Maury avait raison. Tant qu'ils tenaient à leurs lois, les juifs, en dépit de leur bonne volonté, n'étaient pas citoyens ni français. Salomon Reinhard s'en souviendra plus tard, près d'un siècle plus tard, quand il appellera solennellement les juifs, dans une lettre ouverte publiée dans l'Univers israélite, à renoncer à toutes ces pratiques. Clermont-Tonnerre avait clamé « Il est nécessaire qu'ils soient des citoyens. » On ne dit pas mieux sous cette nécessité que la nation exclut à l'avenir toute persistance du fait juif dont elle admet qu'elle résulte de la pratique. Elle exclut la permanence des juifs dans la dispersion, l'existence juive d'exil. On ne dit pas mieux combien le fait juif, par sa persistance, oblige à poser la question nationale. Il est nécessaire que la question nationale se pose.